Laudetur Jesus Christus.
La France et l'Allemagne appellent la Russie à retirer ses troupes à la frontière ukrainienne et espèrent éviter l'escalade entre Kiev et Moscou. Le président ukrainien s'est rendu hier à Paris pour chercher du soutien auprès de ses homologues européens. La guerre au Yémen continue et les combats se concentrent autour de la ville de Marib, dernier bastion du gouvernement dans le nord du pays. Près de 100 personnes ont été tuées ces dernières 48 heures. Puis direction le Royaume-Uni où le gouvernement Johnson est empêtré dans un scandale de corruption. Dans cette édition également, le haut commissaire aux réfugiés des Nations Unies reçu hier par le pape François. Au menu des discussions, les déplacements de population au Venezuela ou la crise de l'accueil en Europe. Et enfin, dans notre dossier en fin de journal, nous irons au Pérou. Le premier tour de la présidentielle a eu lieu la semaine dernière. La gauche radicale affrontera la droite populiste. Comment expliquer un tel antagonisme? Analyse à suivre avec Alvaro Artigues Pereira, spécialiste de l'Amérique latine.
Radio Vatican, le journal, Marine Henriot.
Bonjour. La France et l'Allemagne veulent être au chevet de l'Ukraine. Les deux puissances européennes ont réaffirmé leur soutien à la souveraineté de l'Ukraine et appellent la Russie à retirer ses troupes supplémentaires des troupes déployées par Moscou à la frontière. Le président ukrainien était reçu hier à Paris et s'il a reçu le soutien espéré face à la Russie, les appels répétés du président Zelensky à l'entrée de l'Ukraine au sein de l'OTAN et de l'Union européenne sont néanmoins restés sans réponse. Les précisions de Marie-Christine Bonzon.
À l'issue de leurs entretiens, Emmanuel Macron, Angela Merkel et Volodymyr Zelensky ont exprimé, et je cite le communiqué allemand, leurs préoccupations quant à l'augmentation des effectifs des troupes russes à la frontière avec l'Ukraine. Angela Merkel et Emmanuel Macron ont renouvelé leur soutien à la souveraineté de l'Ukraine et à son président. De son côté, le président ukrainien a souhaité l'organisation d'un sommet avec Vladimir Poutine, Emmanuel Macron et Angela Merkel. Monsieur Zelensky a de nouveau réclamé pour son pays la protection à travers l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN et à l'Union européenne. Mais le Kremlin oppose un niet catégorique à ce que l'Ukraine entre dans l'OTAN. Moscou accuse Kiev de provocation et l'Alliance Atlantique d'actes menaçants. Du reste, la France est elle aussi réticente à l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN et à l'UE par crainte de provoquer l'ours russe. Mais avec l'Allemagne, la France espère pouvoir éviter l'escalade entre Kiev et Moscou. Un objectif difficile à un moment où les relations entre la Russie et les États-Unis se détériorent. Hier soir, la présidence française a toutefois évoqué la possibilité d'une rencontre entre des experts français, allemands, russes et ukrainiens dans les prochains jours, rencontre qui viserait à rechercher une solution politique à la crise. Marie-Christine Bonzon. Pour Radio Vatican.
La Russie est également dans le viseur des Américains. Washington accuse le Kremlin d'ingérence dans l'élection présidentielle américaine de 2020 et a annoncé hier des sanctions contre plusieurs entités russes. La réponse de Moscou n'a pas tardé. Cette nuit, des diplomates américains vont être expulsés de Russie. Les États-Unis dénoncent une escalade regrettable. Faire face ensemble aux défis posés par la Chine, c'est la promesse que se font les États-Unis et le Japon. Yoshihide Suga, le chef du gouvernement japonais, fut hier le premier chef d'État reçu à Washington par Joe Biden. Joe Biden qui a également fait part de son soutien à l'archipel pour organiser les Jeux Olympiques cet été en toute sécurité. La guerre au Yémen se poursuit et les combats se concentrent actuellement autour de la ville de Marib, une localité stratégique qui constitue l'une des dernières places fortes du camp pro-gouvernemental. Près d'une centaine de morts ont été recensés en deux jours dans la bataille pour le contrôle de cette ville d'environ 17 000 habitants située à 120 km à l'est de la capitale Sanaa. Cyprien Viette, vous nous précisez les enjeux de cette bataille.
Oui, alors selon le dernier bilan communiqué par l'AFP, les combats ont fait 96 morts ces dernières 48 heures au Yémen parmi les forces loyalistes et les rebelles qui veulent contrôler cette ville stratégique de Marib, dernier bastion gouvernemental dans le nord du pays. Les rebelles houthis poursuivent leurs attaques contre les positions des forces loyalistes pendant que les avions de la coalition menée par l'Arabie Saoudite qui intervient au Yémen depuis 2015 effectuent des frappes continues sur ces rebelles soutenus par l'Iran. Les houthis avancent lentement vers Marib mais ils constituent désormais une menace particulièrement sur les fronts de Kassara et Marja au nord-ouest de la ville, a indiqué un responsable militaire. La perte de Marib serait un coup dur pour le gouvernement et pour son allié saoudien. C'est une ville chargée d'histoire. Certains archéologues l'identifient en effet comme la capitale du royaume de la reine de Saba, qui fut l'un des territoires les plus riches du monde connu à l'époque biblique. Aujourd'hui, c'est surtout le contrôle d'un oléoduc stratégique qui explique les combats acharnés qui s'y déroulent et qui font suite à de nombreux autres épisodes violents dans cette guerre du Yémen. Ainsi, le 18 janvier 2020, une centaine de soldats gouvernementaux avaient été tués dans une base militaire proche de Marib lors d'une attaque de drones attribuée aux rebelles houthis.
Merci Cyprien Viette. Au chapitre Covid, l'OMS s'inquiète quant à la hausse des cas en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Plus de 9000 personnes ont été recensées positives ces derniers jours et 82 morts, tandis que seuls 900 cas avaient été comptés sur toute l'année 2020. L'Organisation mondiale de la santé craint les ravages de la pandémie dans ce pays pauvre de 8 millions d'habitants qui a peu accès aux vaccins. 130 000 doses ont été fournies dans le cadre du programme COVAX. Et puis un chiffre au niveau mondial, le seuil des 3 millions de morts provoqués par la Covid-19 devrait être franchi ce samedi. Direction maintenant le Royaume-Uni où le gouvernement de Boris Johnson est empêtré dans un scandale de corruption. À l'origine, les révélations dans la presse sur le lobbying exercé par son prédécesseur David Cameron qui avait tenté d'intervenir auprès de ses contacts pour favoriser une société financière, Greensill Capital, qui depuis a fait faillite. De Londres, la correspondance de Jean Jaffré.
Au départ, il y a l'enquête de journalistes du Financial Times et du Sunday Times. Ils ont révélé que David Cameron, l'ancien Premier ministre, avait bombardé de textos le ministre des Finances, Rishi Sunak, et ses collaborateurs pour intervenir en faveur de la société financière Greensill Capital. Cameron a fait pression pour que cette société puisse bénéficier de prêts avantageux de l'État dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de la Covid-19. Depuis, on a appris que l'ex-Greensill, un Australien, avait eu ses entrées au 10 Downing Street en tant que conseiller sur la réforme des services de l'État et qu'il avait nommé de hauts fonctionnaires et d'anciens ministres dans le conseil d'administration de sa société financière. Le problème est que ces passages du public au privé et vice-versa sont acceptés sans examen de possibles conflits d'intérêts. Le Premier ministre a bien essayé de botter en touche en promettant une enquête indépendante. Mais trois commissions parlementaires et la Cour des comptes vont aussi mener leur propre enquête. Long Jean Jaffré, Radio Vatican.
Au Royaume-Uni auront lieu tout à l'heure les obsèques du prince Philippe. Vers 13h, le doyen de Windsor, David Connor, prononcera une prière. La procession débutera une heure plus tard, direction la chapelle Saint-Georges, en présence des membres de la famille royale. Nouveau drame en Méditerranée. Hier, au large de la Tunisie, le corps de 41 personnes tentant de rallier l'Europe en bateau ont été repêchés par la garde maritime tunisienne. Parmi les morts, un bébé, seul 3 personnes ont pu être secourues. Toutes venaient d'Afrique subsaharienne. Cette route au départ de la Tunisie pour relier l'Europe est la plus mortifère de la Méditerranée. Près de 300 personnes sont mortes depuis le début de l'année. Le drame des migrations en Méditerranée, un sujet évoqué par le pape François et Filippo Grandi, le haut commissaire aux réfugiés des Nations Unies, a été reçu hier par le Saint-Père. Une audience privée qui s'est tenue 5 ans jour pour jour après la visite du pape auprès des migrants et des réfugiés dans un camp de Lesbos en Grèce. Le haut responsable de l'ONU, qui s'est senti encouragé dans sa mission, revient avec nous sur les crises migratoires importantes sur lesquelles l'organisation internationale et le Saint-Siège sont en syntonie.
Nous avons discuté un certain nombre de crises sur lesquelles nous avons bien sûr des intérêts communs et nous faisons du travail en commun de plus en plus avec les institutions de l'Église qui s'occupent de ces thèmes. Nous nous sommes penchés quand même sur la situation en Amérique centrale qui reste difficile. La situation au Venezuela demeure difficile avec des centaines de personnes qui fuient le pays chaque jour. J'étais récemment à la frontière entre la Colombie et le Venezuela, j'en ai parlé au Saint-Père. La Colombie a fait un geste très important en accordant une protection temporaire à tous les Vénézuéliens sur son territoire. J'ai demandé au Saint-Père de parler aux autres leaders de la région pour qu'ils fassent la même chose, parce que l'accès aux services, aux écoles, au système de santé, au travail pour le Vénézuélien dépend de cette reconnaissance dans laquelle la Colombie a été un pionnier. Nous avons parlé de la crise libanaise, j'en suis très très inquiet, le pape aussi. Et nous avons parlé de l'Europe, où les flux migratoires doivent rencontrer un accueil beaucoup plus unanime et plus ouvert.
Entre gauche radicale et droite populiste, le Pérou semble aujourd'hui plus polarisé que jamais. L'élection présidentielle du week-end dernier a placé en tête Pedro Castillo, un instituteur de 51 ans, représentant la gauche radicale, devant Keiko Fujimori, 45 ans, issu de la droite populiste. Le second tour de la présidentielle se tiendra le 6 juin dans le pays andin, mais déjà, les antagonismes sont profonds. Novice en politique, Pedro Castillo s'est fait connaître en 2017 en prenant la tête de la grève des instituteurs dans son pays. Keiko Fujimori est elle non plus loin d'être une inconnue aux yeux des Péruviens. Il s'agit en fait de la fille de l'ancien dictateur Alberto Fujimori, qui présida le pays de 1990 à 2000. Keiko Fujimori a défrayé la chronique ces dernières années pour les accusations de corruption qui ont pesé sur elle. Alvaro Artegas Pereira est spécialiste de l'Amérique latine, docteur en sciences politiques. Il revient sur cette polarisation de la politique péruvienne qui semble n'être amenée qu'à se creuser.
Les atouts justement de Keiko Fujimori ont été ceux d'appartenir à une formation politique quand même qui a une assez grande stabilité dans un pays d'une très grande instabilité au niveau politique. C'est-à-dire que vous avez un groupe parlementaire qui a pu se positionner véritablement comme le premier en fait du Congrès péruvien. C'est quelqu'un quand même qui a pu retenir une présence dans les médias. Il y a cet aspect-là quand même qui au Pérou compte beaucoup. C'est-à-dire c'est le fait de pouvoir se maintenir en fait sur le devant de la scène médiatique en fait dans un pays où vous avez une myriade de formations politiques. Bien sûr, il y a l'héritage de Fujimori, le père Alberto Fujimori, qui a présidé cette période autoritaire du Pérou, assez lourde en termes d'exactions, en termes de violations de droits de l'homme. Et c'est clair que c'est un héritage qui la pénalise, mais qui aussi, quelque part, lui amène un électorat en fait en quête d'ordre. Il faut savoir en fait qu'en ce moment, en fait, pour beaucoup de sociétés latino-américaines, il y a une quête de l'ordre, une quête de la stabilité qui vient soit par des projets de refondation nationale, hein, on le voit dans le projet de son opposant, Pedro Castillo, mais aussi par un retour finalement à une période peut-être plus autoritaire, avec moins de liberté. Et je pense que c'est un phénomène d'ailleurs qui n'est pas unique à l'Amérique latine.
La présence au second tour de Pedro Castillo est plutôt une surprise. Il représente la gauche radicale. Comment expliquer son succès?
L'attrait de ce personnage et sa capacité à se présenter comme quelqu'un issu de la société civile, c'est un instituteur, hein, vous voyez, il y a une figure très forte quand même dans le monde andin, c'est celui qui amène véritablement la civilisation dans les contrées les plus reculées du pays. Et finalement, le fait que dans un monde politique où vous avez des hommes et femmes politiques qui ont quand même un passé lourd en termes d'intrigues, de corruption, c'est quelqu'un qui finalement est assez peu touché par cela. Et à côté de ça aussi, qui représente une gauche transformatrice du pays qui n'a jamais cessé d'exister. C'est aussi une gauche qui a pu prendre aussi des aspects un peu révolutionnaires et même assez terribles. C'est le sentier lumineux, mais c'est une gauche finalement qui n'a jamais véritablement disparu. Lui, il a su se présenter véritablement comme quelqu'un issu du peuple.
Est-ce que cette configuration politique du second tour est à même de redonner une forme de stabilité au Pérou entre deux pôles, ou au contraire d'accentuer la polarisation du pays?
Et non, justement, en fait, c'est ça tout le drame en fait de cette élection. C'est-à-dire que le problème auquel nous faisons face, justement, c'est très grande instabilité et cette instabilité qui finalement pousse à la polarisation, parce que justement, comme il n'y a pas de programme en commun, il n'y a pas de véritablement d'idée, d'une feuille de route qui aurait été négociée, dialoguée, discutée, on se dirige véritablement vers des accords ad hoc qui forcément vont graviter autour de idéologie forte. Le parti de l'ordre, le parti de la stabilité face à une menace rouge. Il y a cette peur du projet vénézuélien qui se répandrait au niveau continental.
Comment le modèle péruvien aujourd'hui s'insère-t-il dans la dynamique régionale latino-américaine, dans le mouvement de balancier entre forces de gauche et forces de droite?
Écoutez, c'est deux alignements qui se mettent en place en fait. C'est-à-dire que d'une part, vous avez effectivement cet alignement autour d'une droite qui se veut modérée, mais finalement qui l'est bien peu. En fait, vous voyez, en Uruguay, vous avez une droite qui était partie sur un discours très modernisateur, transformateur, et finalement c'est une droite qui réplique un peu les mêmes mouvements pavloviens en fait d'il y a quelques décennies en fait. Donc on se pose bien la question d'où se trouve ce changement. Et à côté de ça, vous avez également cette gauche qui totémise un peu le chavisme, parce que le chavisme aujourd'hui, qu'est-ce que c'est en fait? C'est un pays en plein délabrement et déchéance, qu'est le Venezuela en fait. On peut plus voiler la face, et donc c'est un modèle finalement qui en a très très limité. Donc il y a cette complexité et surtout ce renouvellement générationnel. C'est là où il faudrait peut-être aussi être très attentif à cette évolution au Pérou, c'est-à-dire que ce soutien à Fujimori, à Keiko, ce soutien à Castillo, finalement, c'est un vote de protestation. Et c'est pas véritablement, en fait, un électorat qui a trouvé des candidats qui véritablement représentent leurs idées.
Voilà, interrogé par Olivier Bonnel, Alvaro Artigas Pereira, docteur en sciences politiques, était ce matin l'invité de Radio Vatican. Le prochain retour de l'information du Vatican, de l'Église et du monde, c'est tout à l'heure à 13h. Très belle journée à toutes et à tous.